Radio Okapi.
Mesdames, Messieurs, voici les titres de votre journal que vous présente Pierrot et la Mégie dans une mise en onde de Sylvain Baugueré. Mais d'abord, les titres. Il faut respecter la présomption d'innocence des prévenus dans le procès Vital Kamerhe. C'est l'appel lancé par le panel des experts de la société civile de la RDC en réaction à une analyse faite de ces procès par Congo Research Group, un groupe d'études basé à New York qui risque de mettre à mal le travail professionnel des juges. Depuis le mois d'avril dernier, les atrocités du groupe armé Codeco ont fait plus de 100 morts et envoyé dans l'errance plus de 400 000 personnes après l'incendie d'environ 10 000 maisons dans les territoires de Mahagi. C'est le constat fait par une délégation de députés provinciaux de Mahagi après une mission effectuée avec l'appui logistique de la MONUSCO. Reproché d'avoir perçu une somme de plus de 1 million de dollars dans le cadre du programme des 100 jours du chef de l'État, dont l'utilisation n'est pas connue, le ministre John Tumba de la formation technique et professionnelle va répondre devant la justice après qu'il a semblé à autoriser les poursuites judiciaires contre lui. Et pour en parler, Lucien Kasongo, président de la commission PAJ, est notre invité dans ce journal. Bienvenue à tous. Le panel des experts de la société civile interpelle l'opinion congolaise et certains groupes de réflexion au respect de la présomption d'innocence des prévenus dans le procès Vital Kamerhe. Il invite les uns et les autres à se réserver des déclarations et insinuations de nature à mettre à mal le professionnalisme, l'impartialité et l'indépendance recommandées dans le travail des juges de faire éclater la vérité. Ceci est contenu dans un document rendu public mercredi 20 mai qui fustige l'analyse faite par Congo Research Group, un groupe d'études basé à New York sur l'affaire Kamerhe. Le résumé de l'analyse du groupe d'études et la réaction du panel des experts de la société civile avec vous, Billy Ivan Lutumba.
Opacité quand tu nous tiens, c'est en ces termes que Congo Research Group intitule son analyse des 18 pages sur la gestion du programme d'urgence du chef de l'État. Cette analyse justifie le groupe, se base sur des documents reçus des sources judiciaires, gouvernementales et des entretiens avec des hauts responsables au sein des institutions congolaises. Pour GEC, l'affaire Kamerhe reflète des pratiques contestées dans la gestion du pays depuis le règne de Joseph Kabila et même de l'ère Mobutu, d'où son appel à renforcer le contrôle parlementaire en respectant la chaîne des dépenses et les règles de passation des marchés. En réaction, le panel des experts de la société civile congolaise qualifie cette démarche de tendancieuse avec influence négative sur la justice congolaise. Dieudonné Mouchagaloussa, porte-parole du panel.
La présomption d'innocence existe partout et c'est là où nous voulons que l'opinion puisse le savoir, qu'on ne puisse pas avoir des interférences d'ordre politique, d'ordre juridique et d'ordre international, puisque si l'opinion se rend compte que ce procès est maintenant manipulé dans un sens comme dans un autre, à ce moment on va perdre la confiance dans la justice par rapport à ce procès Kamerhe. Donc ce sera l'effondrement de tout, d'autant plus que la justice doit être garantie pour tout le monde, que ces groupes-là puissent influencer la justice congolaise. Nous n'accepterons jamais ça.
Quant au procès en soi, rappelons que c'est en principe ce lundi 25 mai qu'il doit reprendre, selon que la défense avait sollicité auprès du tribunal une remise.
En Ituri, 7 chefferies sur 8 qui comptent le territoire des Mahagi sont victimes des atrocités du groupe armé Codeco. C'est le constat fait par une délégation de députés provinciaux élus de la circonscription des Mahagi qui revient de cette entité grâce à l'appui logistique de la MONUSCO. Selon le président du caucus des députés provinciaux de ce territoire, plus de 100 personnes sont déjà tuées en territoire des Mahagi par ces assaillants. Depuis le mois d'avril dernier, environ 10 000 maisons incendiées avec plus de 400 000 personnes déplacées. Isaac Remoyope.
Selon ces députés élus de Mahagi, la situation sécuritaire est très préoccupante dans ces territoires suite à l'activisme ces deux derniers mois des assaillants de la Codeco qui ont envahi la quasi-totalité de cette entité. D'après les témoignages recueillis auprès des autorités coutumières et des leaders communautaires, les bilans des attaques de ces hors-la-loi est lourd. Environ 100 morts et plus de 10 000 maisons incendiées, dont des édifices qui abritent des écoles et des structures sanitaires. Ces élus soutiennent que ces assaillants ont profité de l'absence des FARDC dans plusieurs localités pour commettre ces exactions. Ils ont salué les déploiements des FARDC depuis mardi dans certaines agglomérations, mais ils plaident pour l'augmentation de leurs effectifs et l'équipement de ces militaires pour neutraliser cette milice. Ces députés demandent également à certains membres de la communauté lindou de se désolidariser de ces assaillants qui se font accompagner des enfants et des femmes pendant les attaques. Martin Oloa, président du caucus.
Il faut tout un bataillon militaire là-bas pour sécuriser Mag. Il faut aussi les équiper à moyens de déplacement parce qu'ils n'ont pas de moyens de déplacement. Et de l'autre côté, il faut qu'on puisse sensibiliser la population, c'est désolidariser ces assaillants de Codeco.
En réponse à cette demande des élites, des sources militaires indiquent que le gouvernement de la RDC a déjà pris des dispositions pour renforcer les militaires en nombre et équipement en vue de rétablir la paix en Ituri. Bounia Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Au sud Kivu, le chef de guerre Maïch Simba, général-major autoproclamé, s'est rendu hier mercredi au FRDC avec une 60aine d'éléments de son groupe. Maïch Simba Wankutu, chef de guerre opéré dans le territoire de Walungu et dans les territoires voisins. Il s'est rendu avec 19 armes et plusieurs munitions à la suite des campagnes de sensibilisation qui ont été menées dans la zone. La cérémonie s'est déroulée dans son fief à Kishadu, en chefferie Ninja, territoire des Kabarets. C'est en présence de la MONUSCO. Jean-Baptiste Tonga nous donne les détails.
La cérémonie s'est déroulée en présence du chef de bureau de la MONUSCO Bukavu, du ministre provincial de l'Intérieur du Mwami, de la chefferie de Ngweche, accompagné des autorités administratives de Walungu, de la police et des représentants de FRDC et de la police. C'est à la suite des campagnes de sensibilisation qui ont été intensives menées dans cette zone. La MONUSCO a été approchée par Maesh Simba, général-major autoproclamé, qui exprimait le désir de se rendre, selon les chefs de bureau de la MONUSCO Bukavu, Karnasoro. C'est le premier groupe qui se rend dans le cadre du programme CIAP-DDRC, lequel consiste au désarmement, démobilisation et réinsertion des éléments des groupes armés qui se rendent. Le ministre provincial de l'Intérieur s'est dit satisfait de cet acte et promet un accompagnement aux éléments qui se sont rendus et en attendant d'autres du même groupe éparpillés dans d'autres régions environnantes. Cette reddition a réjoui la population de cette contrée et qui vivait les exactions de ce groupe armé et aspire à une vie paisible. Un appel est donc lancé aux autres groupes armés de suivre l'exemple de Maéché pour que la paix puisse régner dans cette région. Bukavu, Jean-Baptiste Ntonga, Radio Kapi.
Dans la province de la Tchopo, un conflit de pouvoir coutumier fait un mort et plusieurs maisons incendiées dans le groupement Liambi en territoire d'Isangi. Selon le président de la société civile de cette entité, Joseph Bassaï, deux camps opposés s'étaient affrontés au marché des Yafira la semaine dernière. Plusieurs biens ont été emportés et les gens se sont retirés dans la forêt par peur de représailles. Il accuse le responsable territoriaux et provinciaux d'alimenter les conflits de pouvoir coutumier dans ce territoire. Il a dit au micro de Jacques Mukonkole.
Vous savez qu'ils se sont battus la semaine dernière en plein marché de Yafira, qui est le deuxième grand marché de la province. Et le bilan a fait un mort, il y a eu plus de 26 maisons incendiées, plusieurs blessés, les gens ont perdu leurs marchandises. Et jusqu'à aujourd'hui, la population ne sait pas sortir. Les deux camps se recherchent. Donc quand vous soupçonnez que vous êtes de tel coin, on vient incendier votre maison, on vient tout brûler. Je vous dis qu'aujourd'hui, personne ne sait rester à la maison parce que d'abord là, on a tué quelqu'un, sa famille est en colère, il cherche tout le monde et c'est ce qui fait qu'il y a l'insécurité. Aujourd'hui, les autorités ne sont pas à même de restaurer la paix. Et vous savez que le territoire de Sangui, ce n'est pas l'unique conflit. Dans le secteur de Bambelota, il y a deux personnes qui se disputent la tête du secteur. Les autorités leur donnent des documents à tout moment. Nous pensons que là, c'est un pouvoir génitaire des conflits et incapable de gérer la situation par la suite. Le gouvernement provincial et les territoires sont responsables de ce qui se passe actuellement. Ils doivent prendre leurs responsabilités pour mettre la population en sécurité.
L'administrateur du territoire d'Isangui rejette ces allégations. Joseph Mindinga déclare que l'auteur de ces troubles et quatre autres de ses complices ont déjà été arrêtés par la police. Rappelons que dans le même registre, dans la province du Sankuru, le village des Kabwe, dans le groupement des Balouba, dans le territoire de Lusambo, est vidé de sa population depuis bientôt une semaine. C'est à la suite de l'incendie de toutes les maisons de ce village lors des affrontements qui ont opposé la semaine dernière les habitants des villages des Kabwe à ceux de Mamba. La pomme des discordes. D'après l'administrateur de territoire, serré les conflits de pouvoir coutumiers. Rendons-nous au Nord Kivu où un militant de la Lucha a été tué et 12 autres interpellés par la police nationale congolaise de Beni. Bilan de l'altercation entre la police et les manifestants du mouvement citoyen Lucha en ville de Beni, c'est jeudi matin. Et les activités ont été paralysées dans la ville. C'est Combi Katondolo pour les détails.
Ils ont été une vingtaine de manifestants du mouvement citoyen en lutte pour le changement, Lucha, à descendre dans les rues de Beni ce matin, après être partis de plusieurs quartiers de la ville. Banderoles à la main, sur lesquelles on pouvait lire « Non à la criminalité urbaine » ou encore « Nous voulons la paix ». Le militant manifestait contre la criminalité galopante à Beni. Arrivé au niveau du quartier Kalinda, la police a voulu les disperser et s'en est suivi des échauffourées. Un policier a tiré à bout portant sur un manifestant qui est mort sur le coup. Contacté, le point focal communication de la PNC en ville de Beni, M. Nasson Mourara, confirme l'information et parle de 12 autres manifestants interpellés pour n'avoir pas respecté les mesures édictées par le chef de l'État pour lutter contre la propagation de la COVID-19 et pour troubles à l'ordre public. Entre-temps, les autres manifestants se sont dirigés vers la mairie où une réunion du conseil urbain de sécurité élargie à certains leaders de ce mouvement s'est tenue en urgence. Des policiers dont l'auteur de ce meurtre viennent d'être arrêtés. Signalons que les activités sont restées paralysées la moitié de la journée dans la ville de Beni. Beni, c'est Kombi Katondolo, Radio Okapi.
Revenons dans ce journal sur cette information judiciaire. L'avocat de l'évêque Pascal Mukuna dénonce l'incident qui se serait passé dans la cellule de son client dans la nuit de mardi à mercredi à la prison centrale de Makala. Au cours d'un point de presse qu'il a tenu ce jeudi à Kinshasa, Maître Richard Bondo pense que le président de l'Assemblée chrétienne de Kinshasa a été victime d'une agression dans sa cellule et qu'il serait en train de suivre à présent des soins au dispensaire de la prison. Mais il plaide pour qu'il soit transféré dans un centre hospitalier approprié. Richard Bondo est au micro de Jeff Ngoy.
Oui, notre communication à la presse était de dénoncer et d'édifier l'opinion par rapport à l'incident à 2h du matin, incident au cours duquel l'évêque a été agressé dans sa cellule, qui a été gazé après. Dans un premier temps, on a forcé la porte sans succès, et puis par après, ils l'ont gazé pour qu'il sorte, mais au moment où il s'est effondré, en criant SOS... Tout le monde a couru vers lui et on l'a transporté au dispensaire de la prison où il a été pris en charge. Alors nous dénonçons pour que les autorités chargées du pénitentiaire s'occupent de notre client en le laissant sortir de l'hôpital pour qu'il prenne des soins appropriés dans un hôpital bien équipé.
Contacter les autorités pénitentiaires de Makala disent ne pas reconnaître un quelconque incident dans la cellule de l'évêque. Elle précise que tout le monde en prison est en sécurité. En bref, sachez que depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 1835, dont 1834 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 61 décès, dont 60 cas confirmés, un cas probable et 303 personnes guéries. Nous parlons bien sûr des COVID-19. 411 cas suspects en cours d'investigation, 104 nouveaux cas confirmés, 97 à Kinshasa et 7 au Congo central. Une nouvelle personne sortie guérie, aucun nouveau décès parmi les cas confirmés et 1135 patients en bonne évolution. Les 7 provinces touchées sont Kinshasa avec 1691 cas, Congo central 108 cas, Nord Kivu 15 cas, Haut-Katanga 13 cas, Sud Kivu 4 cas, Ituri 2 cas et Kwilu 1 cas. Les zones de santé les plus touchées de Kinshasa en date du 19 mai 2020 sont la zone de santé de Kokolo avec 208 cas, Limete 182 cas, Mbinza aux zones 172 cas, Gombe 121 cas et Lemba 101 cas. Au Congo central, montée des cas testés positifs à la COVID-19 dans la ville de Matadi. Le maire de Matadi, Patin Zouzi Wama Kengedi, a rendu public l'arrêté portant confinement de la ville pour une durée de 3 jours. Cet arrêté s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la décision du confinement prise par le comité provincial de la riposte contre la COVID-19. Suivons l'extrait de cet arrêté lu par le maire de la ville de Matadi, Patin Zouzi Wama Kengedi.
Considérant les mesures d'encadrement arrêtées par le Conseil des ministres provincial du Congo central, élargi aux membres du Conseil provincial de sécurité, attendu qu'il est en période de préserver la population de la ville de Matadi au risque de propagation à grande échelle de la COVID-19. Article 1. Le confinement de la ville de Matadi pour une période de 3 jours, allant du vendredi 22 mai au dimanche 24 mai 2020 à minuit. Pour permettre à l'équipe de riposte de faire le suivi des contacts et des cas suspects de la COVID-19 dans la ville. Seules les activités essentielles sont autorisées, notamment la SNEL, la régie des eaux, les hôpitaux et centres de santé, les dépôts pharmaceutiques, les ports, les services y œuvrant, moyennant jeton spécial du maire de la ville. Les sociétés de gardiennage doivent établir et envoyer à la mairie la liste de leurs agents qui feront le mouvement pour l'obtention du jeton spécial. Pendant cette période de confinement, les entrées et sorties de la ville de Matadi sont interdites. Les morgues resteront fermées. Seules les entrées de corps seront autorisées. Tout contrevenant aux dispositions prévues par le présent arrêté sera puni d'une amende de 25 000 francs congolais payable au guichet unique de la mairie.
Actualité internationale.
Le désengagement français du CFA, acté par une loi adoptée en Conseil des ministres à Paris le mercredi 20 mai, ne signifie pas la disparition de la monnaie en circulation dans les 8 pays de l'Union monétaire ouest-africaine UEMOA. Mais pour ces pays, s'ouvre une période de transition et des réflexions communes sur l'avenir de leur monnaie. Le franc CFA est un mort en sursis et la durée du sursis dépend uniquement des pays ouest-africains. En effet, Paris vient d'acter son désengagement de la gestion de cette monnaie. Les représentants français se retirent des instances de gouvernance monétaire comme la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Cette dernière peut désormais enlever ses réserves d'échange des coffres forts du Trésor français où la moitié était logée. La garantie en cas de crise monétaire que Paris présente comme une assurance tout risque ne disparaît pas, moyennant quoi la France continuera d'être informée des décisions monétaires des pays de la zone UEMOA. En attendant l'arrivée de l'ECO qui va remplacer le franc CFA, les pays de la zone UEMOA ont désormais leur destin monétaire en main.
L'invité.
Comme je le disais tout à l'heure dans les titres, l'Assemblée nationale a approuvé hier mercredi le rapport de la Commission politique, administrative et juridique autorisant les poursuites judiciaires contre le ministre de la Formation technique et professionnelle. John Tumba Panumpakole va donc présenter ses moyens de défense devant le procureur général près la Cour des cassations autorisée à ouvrir une instruction judiciaire à la charge du ministre. Le procureur général près la Cour des cassations reproche au ministre d'avoir perçu une somme de plus de 1 million de dollars américains dans le cadre du programme des 100 jours du chef de l'État dont l'utilisation n'est pas connue, affirme le président de la commission PAJ. Lucien Kasongo est l'invité de Radio Kapi. Il est au micro de Michel Kifindangoy.
Lucien Kasongo, bonjour.
Bonjour, Michel Ndouani.
La plénière d'hier a décidé de remettre entre les mains de la justice le ministre de la formation professionnelle, ce suivant le rapport de la commission PAJ que vous présidez. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre rapport?
Merci, monsieur le journaliste. L'autorisation de poursuite de une obligation constitutionnelle qui veut que lorsqu'on veut engager les poursuites contre les membres du gouvernement autre que le premier ministre, que le procureur général que la Cour de cassation obtienne l'autorisation de l'Assemblée plénière. Et les poursuites sont des mesures qui visent à faire l'instruction préjuridictionnelle. Et cette demande se fait conformément aux dispositions des articles 153 et 166 de la Constitution. L'autorisation n'est qu'une voie d'entrée de la procédure. C'est comme ça que, après examen de la légalité de la demande, de l'opportunité de la demande, la commission préagie avait proposé à la plénière qu'il n'y avait pas d'inconvénient d'autoriser au procureur général près la Cour de cassation d'entamer l'audition du ministre concerné et que nous sommes régis par le principe d'innocence et également le droit de la défense. Et ça permettra également au ministre concerné de présenter ses moyens de défense parce que quand on cite quelqu'un qui est impliqué dans le détournement, c'est comme un discrédit qu'on jette sur sa personne.
Qu'est-ce que le procureur général reproche au ministre pour amorcer les poursuites contre lui?
Le procureur général de la Cour de cassation reproche au ministre d'avoir perçu une somme de 1 334 000 francs dans le cadre du programme de transition. Il avait perçu cet argent sur le contrôle principal de la présidence, mais on ne sait pas l'utilisation de cet argent. Et ce que le procureur voulait vérifier, est-ce qu'il a réellement perçu cet argent? Il a perdu cet argent, quelle a été l'utilisation? Jusque-là, il n'y a que ça.
Qu'est-ce qui implique cette décision du Parlement en rapport avec la fonction même du ministre de la formation professionnelle?
Dans le réquisitoire du procureur général, il dit qu'il y a des soupçons qui pèsent sur le dos du ministre, Donc, jusque-là, il n'y a rien de mal qu'on reproche au ministre. Le procureur voulait se rassurer si d'abord le ministre a perdu cet argent. Si la réponse est affirmative, maintenant demander quelle a été l'utilisation de cet argent.
Est-ce que la décision du Parlement implique une suspension préventive du ministre dans ses fonctions?
Non, il y a des étapes. Dans l'entendement du commun des mortels, même quand nous étions dans les discussions à la commission, il y avait quand même une mauvaise interprétation de la loi. La Constitution ne dit pas que l'autorisation de poursuite entraîne la suspension du ministre ni la démission. Ici, ce sont des enquêtes qui vont amener le procureur soit à établir la culpabilité du ministre, soit à classer le dossier sans suite lorsqu'il n'y a pas de faits infractionnels. Il n'y a que la mise en accusation, une fois adoptée par la plénière de l'Assemblée nationale, qui pousse le ministre à déposer sa démission dans les 48 heures qui suivent. Donc, il y a deux étapes qui demandent une nette distinction. L'autorisation de poursuite, c'est l'étape juridictionnelle, l'étape permettant au ministère public de rechercher les infractions, de rassembler les preuves, d'établir la culpabilité et de déférer les auteurs, les complices et les co-auteurs devant les juges. C'est à ce niveau-là où nous sommes pas au niveau parce que la culpabilité n'est pas encore retenue. Et il n'y a pas encore, ce sont des soupçons comme le réquisitoire le dit. Et ça permettra au procureur général, après la Cour de cassation, de mener maintenant les enquêtes pour savoir réellement ce qui s'est passé. Donc, il n'y a rien qui peut déjà sur le ministre pour qu'il puisse être suspendu.
Lucien Kasongo, je vous remercie.
Merci, monsieur le journaliste.
Merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de ce journal. Axel Gontu a assuré la supervision. Alain Rung était à la coordination et Sylvain Baogoré a assuré la mise en onde. Quant à moi, Piro et la Mégie, je vous dis merci. Mais n'oubliez pas que vous pouvez réécouter ce journal sur www.radiocapi.net.